Il est 13h sur France Inter. Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Le principe de précaution tous azimuts après les mesures annoncées par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. De nombreux événements ont été annulés dans le pays. Le Louvre est resté fermé ce matin, devrait rouvrir cet après-midi. Des écoles resteront fermées demain dans l'Oise où la population s'organise. En Martinique, des manifestants demandent un renforcement des contrôles à l'aéroport. Et puis à l'étranger, c'est en Corée après la Chine que la situation reste la plus difficile. Le président coréen décrète la mobilisation générale du gouvernement. Le 49-3 et après, deux motions de censure seront déposées par l'opposition cette semaine, par principe. Le débat sur les retraites n'est pas clos. Pour autant, le gouvernement a péché par imprévoyance, déclare la députée La République En Marche, Barbara Pompili. Dans ce journal également, des milliers de migrants bloqués à la frontière gréco-turque. L'agence européenne de contrôle Frontex relève son niveau d'alerte. L'index de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes imposé aux entreprises il y a un an a-t-il eu de l'effet ? C'est le droit de suite du dimanche 13h. On en parle dans un instant avec notre invité, secrétaire confédéral Force Ouvrière. Et puis des paquets de cigarettes à 10 €, 50 centimes de plus à compter de ce 1er mars. Mesure de santé publique qui inquiète les buralistes.
France Inter.
Jusqu'ici, c'était loin et un peu abstrait. L'épidémie de coronavirus commence aujourd'hui à peser sur la vie quotidienne dans l'Hexagone, où le seuil symbolique des 100 cas de contamination vient d'être franchi. Plus de 20 000 enfants n'iront pas à l'école dans les jours qui viennent. Dans l'Oise, on va y revenir. Ce matin, le semi-marathon de Paris, qui devait rassembler des milliers de concurrents, n'a pas eu lieu. Le salon de l'agriculture n'a pas ouvert ses portes pour le dernier jour. Le Louvre non plus, en tout cas jusqu'à la mi-journée. Il devrait rouvrir cet après-midi. Les salariés du musée voulaient d'abord faire le point avec la direction. Partout, on s'interroge après les mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'annulation des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, de tous les événements extérieurs présentant un risque de propagation du virus également. Dans les endroits les plus touchés par la contamination, dans 5 communes de l'Oise notamment, des mesures plus strictes ont été prises. Limitation des déplacements, fermeture des établissements scolaires. Mathilde Dehimy s'est rendue ce matin à Villers-Saint-Paul, commune de commune de Creil, où s'est tenu ce matin un mini-marché.
Les premiers clients ignorent les mesures de restriction.
On n'était même pas au courant de ça.
Et n'ont presque pas modifié leurs habitudes.
Bon, après, il faut bien vivre, il faut bien faire ses courses et tout.
Tous les établissements scolaires sont fermés dans la zone.
Et ben demain, je suis confiné à domicile, donc je vais rester avec mes enfants.
Confiné par précaution.
Mon employeur a préféré, par mesure de sécurité.
Julien a une solution temporaire.
Ça tombe très bien.
David s'interroge, lui, pour son fils en terminale.
Il y a le bac à fin d'année. Ça pénalise quand même les enfants et déjà ceux qui passent le bac.
Il n'a pas cours la semaine prochaine.
Les commerçants, eux, ne sont pas au courant de l'interdiction, comme Corinne qui craint pour la suite.
La semaine prochaine, moi-même, je suis sur Compiègne. Ça va être un manque à gagner parce que c'est vrai que Compiègne, c'est quand même un marché qui n'est pas négligeable.
Brigitte ira travailler à Paris.
Demain, je prends le train à Creil, on verra bien. Bon, je pense qu'il y aura du monde quand même parce qu'on n'a pas cette sensation de ville bloquée ou pas du tout.
Laurent, lui, va acheter du gel pour ses 25 salariés.
Comme le préfet a signalé, se laver les mains, éviter de se faire la bise. Voilà. On va dire, on va faire attention à ces premiers gestes qui sont peut-être très importants.
Bye bye les enfants.
Tous disent ne pas être inquiets et veulent éviter la psychose.
Ouais.
Villers-Saint-Paul, Gilles Gallinaro, Mathilde Dehimy, France Inter.
Dans une commune voisine, le marché de Crépy-en-Valois, lui, a été prié de plier bagages par les forces de l'ordre. Voilà, chacun fait comme il peut ou comme il croit devoir faire. En sport, par exemple, les matchs de foot sont maintenus, mais pas le match de basket en milieu confiné. Villeurbanne-Monaco qui a été reporté. Dans les églises, on l'a dit, les bénitiers doivent être vidés. Les mosquées annoncent également des mesures de précaution en demandant aux fidèles de ne pas se serrer la main et d'éviter sur les lieux d'ablution les serviettes à usage multiple. Et puis quand aucune mesure n'est officiellement annoncée, eh bien c'est la population qui s'inquiète, comme en Martinique, où un bus de touristes belges et allemands a été bloqué sur la route de l'aéroport Aimé Césaire, bloqué par des manifestants qui réclamaient plus de contrôle sanitaire pour les voyageurs arrivant dans l'île. Roman Bonnec à Fort-de-France pour Martinique Première.
C'est en fin d'après-midi que la sortie de l'aéroport Aimé Césaire est bloquée par un barrage filtrant les véhicules. Les manifestants veulent, disent-ils, marquer le coup pour dénoncer un dispositif sanitaire insuffisant.
On protège notre île, on protège notre peuple.
Finalement, la route sera entièrement libérée une heure plus tard par l'aide musclée des gendarmes. Mais en début de soirée, par une autre sortie, un bus transportant 70 passagers belges et allemands en provenance de Paris se trouve lui bloqué. Ces touristes doivent rejoindre le navire MSC.
Depuis 2 heures, on est bloqué.
Vous avez eu des tests de température ?
Oui, on a en Allemagne et aussi ici. Alors on quitte pas l'aéroport, on ne rentre pas l'aéroport sans faire ça.
Les manifestants, eux, refusent de laisser partir le bus, réclamant des garanties sur l'application du principe de précaution. Le bus quitte l'aéroport après des tirs de lacrymogènes, mais se retrouve à nouveau bloqué sur la rocade au niveau de la station essence de l'aéroport. Nouvelle intervention des gendarmes mobiles et retour à la case départ pour les visiteurs. De l'aéroport, ils seront finalement transférés sur le bateau de croisière MSC à la Pointe des Grives. En toile de fond de cette montée de fièvre, la crise hospitalière en Martinique, auquel s'ajoute une épidémie de grippe et de dengue, avec de surcroît la crainte de l'arrivée du coronavirus. C'est la situation globale sur la santé publique qui est pointée du doigt par les manifestants dans le contexte toujours brûlant du scandale de l'empoisonnement au chlordécone.
Voilà, le chlordécone, produit utilisé pendant longtemps dans la culture des bananes et des désormais interdit. À l'étranger, on parle moins de la Chine où l'épidémie qui semblait contenue a pourtant connu ces dernières 24 heures un nouveau rebond. L'activité économique reste largement paralysée dans le pays, notamment dans la province du Roubaix. C'est en Corée que la situation paraît aujourd'hui la plus difficile. Près de 600 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche, portant à plus de 3700 le nombre des personnes contaminées, dont 18 à ce jour sont mortes. Le président coréen Moon Jae-in a décrété ce matin la mobilisation totale du gouvernement. Luis Paligiano est à Séoul.
Après avoir relevé l'alerte à son niveau maximum, le gouvernement livre désormais une réponse totale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Moon Jae-in lors d'un discours télévisé pour commémorer le mouvement d'indépendance de la Corée contre le joug colonial japonais. Tests de dépistage massifs, mesures de quarantaine renforcées, opérations de désinfection. Le président sud-coréen a fait état d'une mobilisation tous azimuts face à la flambée de nouveaux cas, soulignant même la nécessité d'une coopération intercoréenne en matière de réponse aux maladies infectieuses. Moon a aussi annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence, notamment pour pallier la surpopulation dans les hôpitaux de Daegu. Le nombre de patients infectés dans la deuxième ville du pays compte pour près de 2/3 des cas. Actuellement, quelques 1300 personnes contaminées sont en auto-quarantaine à domicile avant de pouvoir être admises à l'hôpital. Une situation qui alimente les inquiétudes, selon lesquelles le manque de lits pourrait entraîner davantage de décès. 2 patients sont morts du Covid-19 dans le pays en attendant d'être hospitalisés. À Séoul, Louis Paligiano pour France Inter.
Et l'économie coréenne, bien sûr, est affectée par l'épidémie. Les deux groupes, Samsung et Hyundai, ont dû arrêter chacun l'une de leurs usines après que des salariés ont été testés positifs.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Des milliers de migrants qui s'entassent à la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est une nouvelle crise humanitaire qui se profile si la situation perdure. La Grèce annonce avoir bloqué 10 000 entrées illégales sur son territoire et de nouvelles arrivées sont enregistrées chaque jour depuis que le président turc Erdogan a décidé de laisser passer tous ceux qui le veulent, migrants venus d'Afghanistan, de Somalie, d'Irak ou de Syrie et dont la Turquie se sert comme monnaie d'échange dans son chantage avec l'Europe. Pour Ankara, soit on soutient l'intervention turque en Syrie, soit on s'expose à une nouvelle crise migratoire. Et pour le gouvernement turc, il y a tout intérêt à exagérer la situation. Anand Loer nous appelle de Turquie.
À en croire les chiffres fournis par les autorités turques, en un peu plus de 24 heures, quelque 63 000 personnes auraient franchi la frontière grecque. Samedi matin, Ankara prétendait que 18 000 migrants étaient entrés en Europe. Dimanche midi, le bilan officiel se portait à 80 888, très précisément. À l'évidence, ces chiffres sont fantaisistes. Ni les autorités grecques, ni les ONG et observateurs présents à la frontière ne rendent compte d'un tel afflux. Mais la Turquie a intérêt à gonfler ses bilans. D'abord, ces chiffres se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion que consultent de nombreux migrants installés en Turquie. En donnant l'impression que les frontières sont grandes ouvertes, Ankara veut convaincre le plus grand nombre possible d'entre eux de prendre la route de l'exil pour créer de toutes pièces l'afflux migratoire espéré et ainsi exercer une pression maximale sur l'Union européenne pour la forcer à soutenir ses actions en Syrie. Mais les chiffres invraisemblables donnés par Ankara et martelés dans les médias ont un autre destinataire, l'opinion publique turque. Recep Tayyip Erdogan estime que la présence extrêmement impopulaire de millions de réfugiés lui a coûté les plus grandes villes aux élections locales de l'an dernier. Le départ supposé de dizaines de milliers d'entre eux et son intransigeance face à l'Europe pourraient contribuer, espère-t-il, à redorer son image. Anand Loer, Istanbul, RFI pour France Inter.
Et ce matin, l'Agence européenne de contrôle des frontières, l'agence Frontex, annonce avoir relevé son niveau d'alerte sur toutes les frontières avec la Turquie. En politique, il a dégainé le 49-3 et maintenant, le Premier ministre qui a pris tout le monde de court hier, y compris beaucoup de députés marcheurs, a fait le choix d'abréger les débats sur la réforme des retraites, mais ce n'est qu'une première étape qui a été ainsi prématurément close, car le marathon législatif est loin d'être fini, même si, bien sûr, dans un premier temps, le suspense est absolument nul. Maxence Lambrecq, le gouvernement va donc engager sa responsabilité et l'opposition déposer pour le principe des motions de censure.
Deux motions de censure seront examinées mardi en fin d'après-midi. À la tribune, le Premier ministre défendra à nouveau sa réforme des retraites, amendée depuis par 300 amendements. Puis, il y aura un vote sur chacune des motions. Et la droite ne votera pas le texte de la gauche. Éric Woerth, député LR.
Nous ne partageons en aucun cas la moindre opinion des insoumis ni des communistes, parce que nous avons une autre vision des retraites. On l'a exprimé au travers d'un projet. Il n'y a pas qu'une seule opposition, il y a bien des oppositions. Et je pense qu'on l'a clairement prouvé lors de ce débat.
Deux oppositions distinctes face à une majorité qui fera bloc, il n'y a aucun suspense. Mardi soir, la réforme des retraites sera de fait adoptée en première lecture. Il restera simplement à débattre de la modeste loi organique. Puis le feuilleton va continuer. Gilles Legendre, le patron des marcheurs à l'Assemblée.
Le circuit de ce texte n'est pas terminé. Il va partir au Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale. Et donc j'espère que les oppositions vont redevenir raisonnables, en tout cas celles qui ont bloqué le système.
Au Sénat, la majorité LR va largement modifier le texte. Les communistes s'y opposeront avec force. Puis en mai ou juin, l'Assemblée examinera à nouveau cette réforme et les insoumis renouvelleront leur stratégie d'obstruction.
Maxence Lambrecq, les réactions se sont multipliées depuis l'annonce d'Édouard Philippe en fin d'après-midi à l'Assemblée, sans surprise, dernières en date. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, pour qui ce n'est pas le gouvernement qui prive l'Assemblée d'un débat sur les retraites, mais ceux qui ont fait le choix de l'obstruction. Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, pour qui le gouvernement continue à diviser le pays. Du côté des Républicains, on renvoie dos à dos le gouvernement et ceux qui bloquent. Ce 49-3, c'est le résultat décevant d'une mauvaise réforme et de l'obstruction de certains groupes, expliquent certains députés républicains. Plus inattendu est la réaction de certains députés marcheurs, dont Barbara Pompili, élue La République En Marche de la Somme, qui le dit publiquement. La France Insoumise a certes bloqué, mais le gouvernement aurait pu s'y prendre autrement.
Je suis furieuse, tout d'abord contre l'imprévoyance du gouvernement. On savait qu'il allait y avoir de l'obstruction. Et donc, il y avait des moyens qui existaient, notamment ce qu'on appelle le temps législatif programmé, qui est un moyen dans le règlement de l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir un débat sans l'obstruction. On a déposé le texte trop tard, le gouvernement a déposé le texte trop tard pour pouvoir utiliser cette méthode. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on était dans la seringue qui risquait d'amener à ça. Et je suis aussi furieuse contre la France Insoumise, notamment parce que la France Insoumise, malheureusement, a été à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire antidémocratique, qui a tout fait pour empêcher d'avancer dans le débat démocratique pour améliorer ce texte en déposant des amendements qui étaient des amendements remplacés chaque année par tous les ans ou des choses de ce genre-là. Je suis vraiment révoltée.
Le premier en tort, Barbara Pompili, pour vous, c'est le gouvernement.
Oui, c'est l'imprévoyance du gouvernement.
Voilà, Barbara Pompili au téléphone de Valérie Massip pour France Bleu Picardie. Du côté des syndicats, la plupart regrettent également ce choix du gouvernement. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, annonce de nouvelles mobilisations dès cette semaine pour Laurent Berger de la CFDT. Qu'on ne soit pas capable de mener un débat sur un sujet aussi essentiel est un mauvais signal démocratique. C'était il y a un an, les grandes entreprises étaient tenues de mettre en place un index de l'égalité salariale homme-femme. Index qui devait permettre de noter les progrès enregistrés en la matière d'année en année. On saura dans les jours qui viennent ce qu'il en est. Ce dimanche, ce sont les 37 000 PME qui entrent dans le jeu, si j'ose dire, et qui s'apprêtent à publier leur premier index, une note sur 100. Avec ce nouveau barème inauguré l'année dernière, le gouvernement promettait plus de transparence et surtout des sanctions au bout de 3 ans pour les mauvais élèves, pour les entreprises qui resteraient bloquées par exemple, sous la barre des 75 sur 100, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait elle-même fait un premier bilan de l'expérience en septembre dernier.
Chaque année, les entreprises vont devoir publier leur index au 1er mars. Difficile de revenir en arrière, et donc un peu obligation de progresser, et puis on va pouvoir comparer d'une année sur l'autre, et puis ça va être de plus en plus transparent, de plus en plus connu. C'est le 1er mars, c'est 8 jours avant le 8 mars. Donc il y aura plein d'éléments pour dire le 8 mars, celles qui avancent et celles qui n'avancent pas. Donc je pense que collectivement, on est dans une dynamique qui va nous faire progresser et qui va nous faire réussir.
Voilà, invitée de ce droit de suite, Béatrice Click, secrétaire confédérale Force ouvrière. Bonjour.
Bonjour.
Alors êtes-vous aussi optimiste que l'était Muriel Pénicaud sur cet index de l'égalité salariale? Est-ce que pour vous aussi, c'est un vrai progrès? Ça devait l'être. Est-ce que c'est vraiment un vrai progrès?
Alors ça devait l'être, oui, c'est certain. Le fait d'obliger, d'arriver à une obligation de résultat dans les entreprises pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est une vraie avancée. Par contre, l'outil montre les limites et confirme les doutes qu'on avait dès le départ, à savoir que elles ont, quand on regarde les grandes entreprises, donc les plus de 250 qui ont déjà fait un tour d'exercice, elles ont obtenu en moyenne 82 points sur 100 et donc elles n'ont pas du tout de risque de sanction.
Mais c'est une bonne note, donc c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est absolument pas cohérent justement avec les 25% d'écart salarial qui sont constatés. Donc c'est là qu'on voit la limite de l'exercice, c'est que les écarts existent, mais ils sont invisibles du fait de l'outil lui-même.
C'est le mode de calcul qui est en cause.
Alors c'est le mode de calcul qui est en cause parce que, par exemple, toute une partie, tous les groupes d'effectifs où il n'y a pas 3 hommes et 3 femmes ne sont pas pris en compte. Donc s'il y a des écarts de rémunération dans ces effectifs-là, ils ne sont pas visibles sur la note. Et de même, il y a un seuil de pertinence qui va permettre de gommer 5% des écarts constatés. Donc c'est quand même assez énorme.
Qui plus est, les notes sont falsifiables? Ce sont des patrons eux-mêmes qui le disent.
Alors, dans tous les cas, les catégories socio-professionnelles peuvent être modifiées. Les catégories peuvent être modifiées, effectivement. Après, on espère que les gens jouent le jeu, mais ça peut être une tentation, effectivement. Et après, on voit d'autres travers aussi, comme par exemple le fait que 20% des entreprises ne respectent pas l'obligation d'augmenter les femmes au retour de maternité. Une entreprise sur deux pratiquement ont au mieux une femme parmi leurs 10 meilleures rémunérations. Ça montre bien qu'il y a quand même réellement un problème en écart salarial. On ne peut pas dire le contraire.
Alors au bout de 3 ans, il doit y avoir des sanctions. Donc ça pourrait changer la donne.
Au bout de 3 ans, il pourrait y avoir des sanctions qui vont jusqu'à 1% de la masse salariale, avec quand même des possibilités aussi de donner des délais supplémentaires si l'entreprise montre une bonne volonté de faire des efforts. Donc on verra sur le long terme. Et après, il y a une problématique aussi sur les entreprises de 50 salariés à 250, c'est qu'elles vont avoir très souvent un index qui ne sera pas calculable parce qu'elles auront des effectifs trop faibles pour permettre le calcul des indicateurs.
Donc, si je vous entends bien, c'est un outil intéressant, mais tout à fait insuffisant. Comment aller plus loin maintenant ?
Pour aller plus loin, il aurait fallu déjà que le gouvernement respecte ses engagements, à savoir fasse un bilan devant le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, où on retrouve et les organisations syndicales et les organisations patronales. Sauf que ce Conseil supérieur a perdu ses mandats en mai 2019 et que le gouvernement n'a pas jugé utile de le remettre en place. Donc pour l'instant, le dialogue social est un petit peu difficile.
Béatrice Click, secrétaire confédérale Force ouvrière, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Allez, 10 € le paquet de cigarettes, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la première hausse des taxes sur le tabac décidée par le gouvernement cette année. La deuxième, ce sera le 1er novembre, 50 centimes à chaque fois. Et comme les marques en profitent pour augmenter leurs marges, le paquet de clopes approche ou même atteint aujourd'hui les 10 €. Mesure de santé publique, explique le gouvernement, mais pour les buralistes, la situation se complique. Illustration en Dromardin. Léo Corcos.
Christian Rey tient son tabac presse depuis 24 ans à Valence. Des augmentations du prix du tabac, il en a vu passer. Et ce n'est jamais une bonne nouvelle pour son chiffre d'affaires.
C'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Alors donc ça devient inquiétant de perdre de plus en plus de chiffre d'affaires quand même. Nous on n'a que 7 à 8% de commission. Il faut vendre quand même pas mal de cigarettes pour faire du jus du chiffre.
Avec cette nouvelle hausse du tarif, l'État veut moins de fumeurs. Les ventes ont baissé de 9% en 2018, 7% l'année dernière. Pour Olivier Garret, un autre buraliste valentinois, les gens vont acheter leur tabac ailleurs.
Dans la rue, vous allez n'importe où, vous allez vite avoir trouvé des paquets qui arrivent d'Espagne, du Maroc ou je ne sais où. Vous les payez 4 €, 5 €, vous les payez 8, enfin 10 bientôt pour les Marlboro. Ça arrête pas les gens de fumer, la hausse du tabac. Ça les fait juste acheter sur le marché parallèle, c'est tout.
Pour maintenir leur chiffre d'affaires, les buralistes diversifient leur activité. Philippe Palais va bientôt vendre son commerce dans le centre-ville de Valence. Son successeur n'aura pas le choix.
Si on veut pas trop perdre de chiffre d'affaires, il faut proposer d'autres choses, le snacking, du café, des cigarettes électroniques. Il y en a même qui vendent du vin, il y en a qui vendent beaucoup plus de confiserie. Tout est bon.
Une dernière augmentation des taxes sur le tabac aura lieu en novembre prochain.
En rappelant que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, avec en moyenne 75 000 morts chaque année. tout dernier mot, c'est du sport. La Française Perrine Laffont qui remporte sa 3e Coupe du Monde en ski de bosse. Perrine Laffont, 21 ans, elle est déjà championne olympique.